Voilà, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en un comité assez réduit, mais c'est ainsi, c'est les vacances. Et nous nous sommes rentrés de vacances seulement hier soir, donc vous voyez, c'est tout frais. Ah, et avant que je parte en vacances fin juillet, nous avions ensemble, si vous vous en souvenez, revu un grand classique de la Bible, de l'Ancien Testament, un classique que nos enfants apprennent justement à l'école du dimanche. Nous avions lu ensemble Daniel 6 avec l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions. Vous vous en souvenez? Et ce matin, pour ce retour de vacances, en tout cas, tout le monde n'est pas rentré, mais en tout cas pour mon retour, si j'ose dire, je vous propose un autre grand classique de l'école du dimanche de la Bible. Ce sera, cette fois-ci, David et Goliath. David et Goliath. Alors l'histoire de David et Goliath, elle est évidemment très connue dans nos églises, par les grands comme par les plus petits. Cette histoire de David et Goliath l'est aussi dans notre société, où c'est devenu finalement une expression assez courante de la langue française. Encore cette semaine, j'étais à Lyon en vacances et mon père me comparait une petite association cycliste dont il est responsable et la force de frappe de Decathlon quand il s'agit de revendre et de recycler des vélos. Et il me dit, presque dépité, découragé, mais si Decathlon commence à faire ce que l'on fait, ce sera David contre Goliath. Il me dit ça découragé. Je l'ai encouragé en lui disant que dans David et Goliath, c'est David qui gagne, c'est pas Goliath. Tout ça pour dire que même les personnes hors de l'Église, elles connaissent cette histoire, elles pensent la connaître, mais vous voyez, dans le cas de mon père, il en avait même oublié qui était le vainqueur entre David et Goliath. Alors que l'on soit chrétien ou non, que l'on soit croyant ou non, tous ces récits bien connus, Daniel dans la fosse aux lions, David et Goliath, ont encore des choses à nous apprendre. On pense les connaître, mais on peut avoir oublié certains aspects, et surtout, on peut avoir oublié les textes sur lesquels ils sont basés. Car ces histoires sont basées sur des textes, et je vous propose ce matin de relire ensemble, en tout cas certains passages de 1 Samuel 17, et de redécouvrir ensemble trois idées qui vont être notre fil conducteur. Premièrement, on va voir la peur et le manque de foi des Israélites à la vue du grand Goliath. Deuxièmement, on va voir la foi et la force de David. Et troisièmement, on va voir l'honneur et la victoire de notre Dieu. Alors, première partie, je vais vous inviter à voir la peur et le manque de foi des Israélites. Et je vous propose de lire les 11 premiers versets de 1 Samuel 17, versets 1 à 11. Et ainsi, je rajouterai les versets 24-25. Je lis dans la version second 21. Les Philistins réunirent, donc un peuple autour d'Israël, et les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre à Israël et se rassemblèrent à Soco, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azeka à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze, il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » Verset 11, en entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Verset 24, je continue un tout petit peu, verset 24-25. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun se disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et s'y libérera sa famille de tout impôt en Israël. On s'arrête ici pour la première lecture. Commençons par le contexte que nous découvrons dans les tout premiers versets. Deux armées donc qui se font face. On est environ, pour information, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Les Philistins s'installent à Soko et à Zéka, deux villes frontières qui appartiennent à Juda et que les Philistins occupent. Et les Israélites se positionnent en face du côté de la vallée d'Ela. Donc chaque armée est sur une montagne et une vallée les sépare, nous dit le verset 3. Donc on s'imagine bien que le premier à attaquer devra descendre de sa montagne, descendre dans la vallée et remonter pour attaquer l'autre adversaire. Donc se retrouvant en position de faiblesse, à la merci des projectiles. Donc attaquer le premier n'est pas vraiment facile dans cette configuration. Résultat, statu quo, chacun reste sur sa montagne. C'est alors qu'un Philistin sort du camp pour aller défier Israël, versets 8 et 9, « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Alors c'est vrai que ce type de combat entre champions d'une armée, de chacune des armées, n'est pas rare à l'époque. On le retrouve dans plusieurs cultures et même récits extra-bibliques. Dans la Bible, on le trouve à un autre endroit, vous irez voir 2 Samuel 2, on retrouve l'idée d'un combat entre champions des deux peuples. Le but est assez simple, c'est de limiter les pertes humaines. Imaginez les pertes humaines, c'est à chaque fois des dizaines de milliers d'hommes qui meurent. Et le but, pour celui qui pense gagner, celui qui pense être certain d'être gagné, tels les Philistins ici, il dit « quitte à gagner, autant perdre aucun de mes soldats ». Donc on va mettre seulement 2 champions. Le champion représente alors son armée, son peuple et ses dieux. Le résultat entre les 2 champions détermine le sort de tout le peuple et est considéré comme un verdict des dieux, comme un combat entre les dieux également. C'est donc bien plus qu'un simple duel entre 2 guerriers. Les conséquences vont bien au-delà de la vie des 2 champions, de David ou de Goliath. Dans le cas présent, les règles sont claires. Un défi champion contre champion. Le problème pour Israël, c'est que le champion philistin, il s'appelle Goliath et qui mesure 3 mètres de haut. 1 Samuel 17 nous dit que Goliath vient de la ville de Gath. Et on comprend qu'il est a priori un des descendants d'un peuple qu'on appelait les Anakim. Un de ces peuples de géants, vous en souvenez dans Nombre 13, que les espions de Moïse ont vu quand ils sont arrivés en Canaan, ils ont pris peur, ils ont dit « il y a des géants » et ils ont fait demi-tour et ils n'ont pas eu confiance en Dieu. 40 ans plus tard, Josué revient, il retombe sur les mêmes géants et Josué 11 nous dit que tous les Anakim furent battus et chassés d'Israël et qu'il en resta quelques-uns où ? À Gaza et à Gath, justement la ville dont est originaire Goliath. Alors, on comprend que là, maintenant, les Israélites, voyant Goliath arriver, ils doivent regretter que leur arrière-arrière-grand-père, Josué, n'ait pas tué 100% des géants et qu'il en reste encore un, malheureusement, pour les défier. Petite parenthèse, d'où l'intérêt d'aller au bout des batailles que l'on peut mener, et pas à 99%. Alors, Goliath, il mesure 3 mètres. Il mesure 3 mètres et il est armé jusqu'aux dents, nous l'avons lu. La peur que sa simple vue engendre paralyse tout Israël, y compris leur chef, le roi Saül. N'était-ce pas lui le plus grand d'Israël? N'était-ce pas lui le plus grand? 1 Samuel 9, verset 2 et 10, verset 23 nous dit que Saül avait une tête de plus que tout le peuple d'Israël. Logiquement, c'est lui le plus grand, le plus fort, ça aurait dû être à lui d'aller combattre le champion philistin, n'est-ce pas? Mais non, Saül ici se fait bien discret, il se garde bien de se proposer en tant que champion, et il se contente de promettre une réduction d'impôts pour quiconque voudrait aller gagner ce fameux Goliath. On le voit, comme tous les autres Israélites, on le voit au verset 11, Saül est tout simplement rempli de peur. Voyez comme Saül et l'Israélite sont paralysés par le regard qu'ils portent sur Goliath et par la peur que ce regard engendre chez eux. La description de Goliath et de ses armes est très minutieuse. Vous avez vu au verset 5 et 7 la taille du javelot, la 7 kilos, la cuirassière, tout nous est décrit en détail, comme si les regards de l'auteur se posaient sur, sur Goliath et décrivaient chaque aspect que l'on trouvait. Les Israélites n'arrivent pas à détacher leur regard de Goliath. Verset 24, à la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? La vue les paralyse. Alors qui, peut-être pendant les vacances cet été ou un été précédent, qui s'est amusé à sauter d'un plongeoir ou d'un grand rocher dans la mer ou dans un ruisseau? Peut-être que tu l'as fait. T'es un champion. Si l'eau est suffisamment profonde, a priori, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque. Au pire, on fait un plat, mais il n'y a pas de risque. Mais pourquoi de nombreuses personnes restent bloquées en haut et finissent même par faire demi-tour? C'est parce qu'elles regardent en bas. Elles ont peur et le regard. Et plus on regarde en bas, plus on regarde l'eau, plus on regarde le vide, plus on est paralysé, plus on est tenté de faire demi-tour. C'est le regard que l'on porte en bas qui nous paralyse. Et de la même manière, les Israélites sont paralysés parce que leur regard est bloqué sur Goliath. Alors, afin de vaincre Goliath, il leur faut déjà arrêter d'être omnibulés par lui, arrêter de regarder, arrêter de détacher leur regard et d'alimenter cette peur, en fait, qu'ils auto-alimentent eux-mêmes. Il faut regarder sur autre chose. Il faut regarder quelque chose de plus grand. Et c'est ce que David fera. Ça sera notre deuxième partie dans un instant. Donc on a compris, si les Israélites sont bloqués devant Goliath, c'est parce qu'ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à regarder autre chose que Goliath. Mais pourquoi cette vue, la vue de Goliath leur fait peur? Parce qu'ils manquent de confiance en Dieu et parce qu'ils ont oublié les promesses de Dieu. Et donc la peur, finalement, n'est qu'une conséquence de leur manque de foi. Leur peur n'est qu'une conséquence de leur manque de foi. Qu'est-ce que Goliath, devant tous les dangers dont Dieu a déjà délivré Israël? Qu'est-ce que Goliath, devant tous les dangers dont Dieu a déjà délivré Israël? Devant tous les peuples que l'Éternel leur a déjà livrés? Qu'est-ce que Goliath devant les promesses de Dieu? Deutéronome 20, c'est une promesse que Dieu a donnée à Israël, Deutéronome 20, verset, les premiers versets. Dieu dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche pour vous pour combattre vos ennemis. Alors ça, c'est une promesse que Dieu leur a donnée. Et Dieu, cette promesse-là, Dieu, il l'a déjà accomplie. Si on va un peu plus tôt dans 1 Samuel au chapitre 5, Dagon, le dieu des Philistins, a été mis en pièces devant l'arche de l'Éternel. En 1 Samuel 14, Jonathan et son serviteur mettent en déroute toute une garnison de Philistins. Donc Dieu a déjà prouvé qu'il est plus fort que les Philistins. Et donc que ce Goliath qui arrive. Mais tout cela, Saül et l'Israélite l'oublient à la vue de l'armure de Goliath. C'est ce manque de foi, ce manque de confiance, cet oubli des promesses de Dieu, cet oubli de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie qui aboutit à une peur paralysante à la vue de Goliath. Mes frères et sœurs, la peur ne peut s'enraciner que dans un cœur qui manque de foi et de confiance. Dans un cœur où la foi est présente, où la confiance est présente, la peur peut effleurer, mais ne peut pas s'enraciner. Alors nous-mêmes, ne laissons pas la peur nous envahir, mais que notre cœur soit rempli de foi, de confiance, qu'il déborde, et ainsi la peur ne pourra pas s'enraciner dedans. Vous connaissez ces paroles de Jésus qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. » Alors face à nos défis, face à nos luttes, quelles qu'elles soient, je ne vous connais pas tous personnellement, mais quelles qu'elles soient, ne laissons pas la peur nous envahir, rappelons-nous des promesses immuables de Dieu et ayons confiance en lui. Et surtout, portons nos regards non sur Goliath, mais au-delà de Goliath. Et c'est ce que David a fait, et c'est notre deuxième partie. Deuxième partie, pour cela, je vous propose de continuer la lecture avec les versets 26 à 40. Alors, je passe un passage pour gagner un peu de temps. Entre-temps, il y a simplement un certain berger nommé David qui est venu sur le front apporter la nourriture à ses frères et il s'informait sur la situation. Et verset 26, il demande aux hommes qui se trouvent près de lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ?»« Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voilà comment on agira pour celui qui le tuera. » Ils font ici allusion à la réduction d'impôts et à la fille en mariage dont on a lu tout à l'heure. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David « Tu ne peux aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül « Mais ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. » Alors Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze, le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Et enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors face à la peur des Israélites, cette seconde lecture nous montre la force et la foi de David. Premièrement, il comprend que le défi proposé par Goliath est plus qu'une menace pour Israël, c'est surtout une insulte contre le Dieu vivant. On voit ça au verset 26. David est le seul à s'en rendre compte. Menacer ainsi Israël, c'est dénigrer le Dieu trois fois saint. C'est rabaisser le Dieu de l'univers. C'est insulter, mépriser le Dieu tout-puissant. Et vu ainsi, le problème est bien plus important que la simple taille du javelot de Goliath ou je ne sais quel détail que les Israélites ont pu revoir sur l'armure. Galates 6 nous dit « On ne se moque pas de Dieu ». Et Sophonie 1 nous dit que même le guerrier le plus brave poussera de grands cris devant la colère de l'Éternel. Même le guerrier le plus brave, même ce Goliath, ne peut rien devant Dieu. Voilà ce dont est convaincu David. Voilà ce qui l'omnibule, voilà ce qui l'anime, voici ce qui le préoccupe plus que la taille du javelot de Goliath. À mon tour de vous poser une question, de nous poser une question. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Nos intérêts ou ceux de Dieu? Notre regard ou celui de Dieu? Et ce sont des bonnes questions à se poser. Même si c'est les vacances qu'on préférerait avoir les doigts de pied en éventail au soleil, c'est des questions qui nous stimulent, mais qui sont bonnes à nous poser, même en plein mois d'août. Nous venons de voir la motivation de David face à cette situation, l'honneur de Dieu. Il est motivé, mais surtout il est confiant. Vous avez vu, hein, comme il est confiant, mais ce n'est pas de la prétention. Il ne dit pas « je suis le meilleur, je vais le battre ». Sa grande confiance vient de Dieu. Et ça, il est certain que Dieu ne laissera pas son nom déshonoré. Voilà pourquoi il affiche une confiance sans faille. Voilà pourquoi il persévère malgré les avis négatifs d'Éliab, son frère aîné, qui lui dit « n'y va pas » et qui l'insulte. Voilà pourquoi il prend le temps de convaincre Saül. Savoir obéir à Dieu malgré les critiques, à contre-courant, malgré les avis négatifs autour de nous est tout un art. Encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant pour autant, c'est que David n'y va pas tout seul. Il ne court pas tout seul vers le Philistin. Il n'y va pas sans demander le feu vert du roi Saül. Il a un objectif, mais il refuse de rentrer en conflit avec son frère Éliab. On voit qu'il botte en touche, verset 29, et puis il argumente petit à petit face à Saül. Et comment il fait pour argumenter? Vous avez vu verset 37? Il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Il donne son témoignage. Comment Dieu l'a secouru dans sa vie. C'est ça son argumentation. Verset 37, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et me délivrera de ce Philistin. » C'est son témoignage personnel. Le témoignage personnel a toujours une grande force, et c'est ainsi que David arrive à faire changer d'avis le roi Saül. Être convaincu de la justesse d'une chose, d'un combat, d'un ministère ou je ne sais quoi, ne signifie pas pour autant s'imposer et forcer toutes les portes. Savoir convaincre, savoir patienter, savoir avoir les mots justes, c'est un art, encore aujourd'hui. Quelle foi, quel courage de David, n'est-ce pas? Qui aimerait avoir le même courage, la même foi que lui? Mais, alors vous allez voir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que ce courage et cette foi, ça ne vient pas de lui. Éphésiens 2 nous dit que la foi, c'est un don de Dieu. Et dans notre cas, pour comprendre comment David fait pour avoir une telle foi, un tel courage, il nous faut revenir au chapitre 16, juste avant, au verset 13, où lorsque Samuel consacre David comme onction, comme roi, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là ». Il est là le secret. Il est là le secret de la foi et du courage de David. L'Esprit de Dieu vint sur lui à partir de ce jour-là. Et c'est cet Esprit de Dieu en lui qui lui donne une si grande foi, un si grand courage. C'est cet Esprit qui anime David. Et là, c'est là que la bonne nouvelle, c'est que c'est le même Esprit que nous avons reçu lors de notre conversion. Il n'y a pas deux esprits de Dieu, hein, un pour David, un pour les autres. Hein. C'est le même esprit de Dieu. Alors ce récit de David et Goliath ne doit pas seulement nous faire admirer la foi de David, mais plutôt nous faire réfléchir sur ce que l'esprit de Dieu peut faire à partir d'une simple personne. Nous les premiers, dès aujourd'hui, Ali, Jean, Daniel, Éléonore, Denise, etc., etc. Ce n'est, 2 Timothée 1 nous dit « Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. » Un esprit de force. Alors ne soyez pas jaloux de David. Ne soyez pas jaloux de David. Mais sachez que l'Éternel a mis en nous le même esprit qu'en lui. Alors aujourd'hui, il est tout à fait possible de manifester la même foi, le même courage. Ça ne vient pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Alors, si la foi et la confiance animent David, on vient de le voir, David n'y va pas pour autant les mains dans les poches affronter Goliath. On a parfois l'image d'un gamin juvénile qui avance tranquillement vers Goliath, fronde à la main. Un petit bambin qui joue avec sa fronde et hop, je tue Goliath. C'est faux, c'est pas ce que nous dit le texte. Un bon combattant, un bon serviteur de Dieu n'est pas seulement confiant, mais il est compétent, il est équipé. Regardez comment se décrit David. Il se décrit comme un farouche berger, capable de tuer le lion et l'ours. Denise, t'as déjà tué un ours ou un lion ? T'as déjà tué ? Non ! On a ici affaire à un farouche berger. Il le dit lui-même. Certes, c'est l'Éternel qui m'a délivré du lion, mais quand le lion m'attaquait, je l'attrapais à la gorge, je le frappais et je le tuais. Moi, quand il y a une araignée dans le salon, j'appelle Éléonore. Hein. Pas tout à fait. Hier, c'était l'inverse. Bref. Ça fait des années que David protège de sa propre vie son troupeau. Cela fait des années qu'il s'entraîne avec sa fronde à viser fort et juste. Il n'a sûrement pas appris du jour au lendemain, d'ailleurs, à exceller à la fronde. Hein. Il s'est sûrement entraîné des heures et des heures et des heures et des heures avec sa fronde pour arriver à viser juste, à choisir la meilleure pierre, les pierres aérodynamiques. On lit dans le passage qu'il prend le temps de choisir 5 pierres bien lisses. À l'époque, la fronde est tout sauf un jouet. C'est une arme de guerre. Vous savez à quelle vitesse peut être propulsée la pierre quand on fait de la fronde, les frondes de l'époque ? Un petit pronostic, 150 km/h. 150 km/h la pierre. On ne parle pas d'un jouet, là. Hein. On parle d'une arme de guerre. Juge 20, au verset 16, nous raconte que parmi les Benjaminites, il y avait 700 hommes d'élite. Et je cite, « Tout ceci pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. » Et de quelle tribu, rappelez-moi, est originaire David ? Justement, celle de Benjamin. Alors, ce n'est pas une coïncidence, mais bien la preuve qu'on est loin d'un David juvénile, inoffensif, inconscient du danger. David a confiance en Dieu, c'est la première des choses, mais il connaît aussi ses propres forces et les armes qui sont les siennes. Alors, au-delà de la confiance et de la foi nécessaires pour servir Dieu, Dieu nous équipe, nous donne des dons, des compétences qu'il nous faut exercer, perfectionner, sans être jaloux de la compétence de l'autre. Si David excelle à la fronde, pourquoi vouloir lui mettre une armure trop grande et une épée trop lourde, comme veut le faire Saül au verset 38 et 39? On s'imagine David avec une épée incapable de la manier. Pourquoi avoir une arme qui n'est pas la nôtre? Aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, nous avons un grand nombre d'armes à notre disposition. Je ne parle pas de la fronde, je ne parle pas de l'épée. Je parle d'Éphésiens 6, vous connaissez ce passage qui nous demande de nous armer avec la vérité en guise de ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile comme chaussure, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Non, le chrétien, il est pas sans armes, il n'est pas démuni. Avec toutes ces armes, qui sont de véritables armes spirituelles, avec la foi en Dieu, avec la confiance en ses promesses, nous n'avons aucune raison d'avoir peur à la vue de l'ennemi, à la vue de nos ennemis. Et nous pouvons prendre exemple sur David, qui s'est préparé et a contribué à la victoire que Dieu s'est assurée pour son honneur. C'est notre troisième et dernière partie. Elle sera brève. Troisième partie, je vous propose de conclure le récit que l'on connaît, mais je vous propose de le relire ensemble, à partir du verset 41 jusqu'à 54, toujours dans la version second 21. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher contre lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa, le mit à mort. Sans avoir d'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin, prit son épée en la tirant du fourreau, il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusqu'à la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Et les Philistins blessés à mort tombèrent sur leur chemin de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin, l'amena à Jérusalem et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Alors la fin du récit, elle est connue, nous la connaissons. Goliath a beau proférer menaces et insultes, il ne peut plus faire demi-tour à David. Son javelot, sa taille, son orgueil deviennent non plus des atouts mais des handicaps, on est d'accord. Il marche lentement vers David, on lui porte son bouclier tant bien que mal au fur et à mesure qu'il avance. En face, David ne marche pas mais court. Il court vers lui et cela au nom du Dieu de l'armée d'Israël. On a lu « Une pierre suffit alors à faire tomber le grand Goliath » qui soudainement s'avère plus aussi invincible que cela. Une seule pierre a suffi. David a gagné verset 50 et cela nous fait dire qu'il n'existe aucune épreuve. Il n'existe aucune épreuve pour laquelle Dieu ne donnera pas la force de surmonter. C'est 1 Corinthiens 10 qui nous le dit et c'est aussi ce passage de 1 Samuel 17. Avec Dieu, même les géants ne sont plus insurmontables. Avec Dieu, même les géants ne sont plus insurmontables. Voilà la conclusion, j'ose dire classique, de ce passage de 1 Samuel 17. Même les géants ne sont pas insurmontables. Enfin, si c'est bien David qui a combattu, c'est bien David qui a lancé la pierre, on comprend que c'est surtout Dieu qui s'est assuré la victoire, n'est-ce pas ? Pour l'honneur de son nom. Dieu a utilisé les capacités de David pour s'assurer de la victoire, de sa victoire. Car rappelez-vous, le combat entre les deux champions, c'est pas seulement un combat entre les deux champions, mais c'est surtout un combat entre les dieux, entre les peuples. Donc c'est certes ici David qui a gagné, mais c'est surtout le Dieu d'Israël qui a gagné. On ne se moque pas de Dieu. Voici une possible conclusion de 1 Samuel 17. On ne se moque pas du nom de Dieu. La victoire finale lui appartient toujours pour son honneur. Soyons-en convaincus. Mais en ultime conclusion, et ça sera ma conclusion, j'aimerais vous inviter à regarder plus loin que ce chapitre de 1 Samuel 17. À aller plus loin. À porter votre regard non pas sur David, non pas sur Goliath, mais sur Jésus-Christ. Vous allez comprendre. Je vous ai invité plusieurs fois à prendre exemple sur David, sur sa foi, sur sa motivation, sur sa confiance, sur ses qualités, sur sa force. Alors tout cela a de nombreuses applications, je n'en doute pas, dans nos vies personnelles, dans notre Église, dans nos familles, etc. Que Dieu nous aide par son esprit à mettre cela en pratique, et c'est ma prière pour vous et pour moi également. Mais pour conclure, allons au-delà et l'espace d'une minute, mettons-nous dans la peau d'un Israélite qui était dans le camp. Mettons-nous dans la peau des Israélites qui ont vu ce David se lever et combattre et vaincre pour eux ce Goliath qui leur faisait peur. Au début, ils étaient dans la peur, ils étaient paralysés. Et verset 52, on les voit à la fin, ils sont soulagés, heureux, ils poussent des cris de joie et ils courent. Quel changement d'attitude, quelle transformation, quelle joie d'avoir eu un tel champion, David, un tel champion, les représentants, combattant pour eux, gagnant pour eux. Chers frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a fait la même chose pour nous en Jésus-Christ face à la mort. En Jésus-Christ face à la mort. Tel un Israélite paralysé devant Goliath, nous étions nous-mêmes paralysés devant le péché, devant la mort, sans force, incapables de lutter, incapables de nous en sortir nous-mêmes. Mais c'est à ce moment-là, nous dit Romains 5, et c'est le verset qui est écrit à l'école du dimanche à côté, c'est à ce moment-là que Christ est venu dans notre monde, portant sur lui nos fautes et nos péchés. Il a alors affronté un ennemi bien plus grand, bien plus costaud que Goliath. Il a affronté la mort, celle que nous méritions, la nôtre. À la croix, dans ce combat, Jésus est mort pour nous. Notre champion aurait-il perdu la bataille ? Non. La résurrection, 3 jours plus tard, nous rassure et nous prouve que Christ est vainqueur, que notre champion, Jésus, a gagné et que par lui, nous sommes désormais délivrés, sauvés, soulagés, tel Israël à la fin de 1 Samuel 17. Alors, grâce à Dieu, grâce à Christ, à nous la joie, le soulagement et la reconnaissance, et surtout, à Dieu soit l'honneur, la gloire et la victoire. Amen.